Vous savez que Jésus est mort pour nos péchés. Rassurez-moi, vous êtes au courant de tout ça. Paul nous dit dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et donc, que dit l'Écriture à laquelle Paul fait allusion? On trouve dans Ésaïe 53, 5, il nous est dit que Jésus, le Messie qui devait venir donc à l'époque, a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc s'il est mort pour nos péchés, il est donc mort pour les pécheurs. 1 Timothée 1, 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, donc c'est vrai, il n'y a même pas à questionner la chose, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il est venu mourir pour les péchés et pour les pécheurs. Ésaïe 53, 6, nous étions tous errants. Avant de connaître le Seigneur, je ne savais pas où j'allais. Je regarde ma vie aujourd'hui, moi qui me croyais plein d'assurance, mais j'étais quelqu'un qui n'avait pas de but réel. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, sur lui, nous. Nous allons y revenir. Donc quand nous disons qu'il est mort pour nos péchés, conséquence du péché, car beaucoup d'enfants de Dieu ont réalisé que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est mort pour eux, mais n'ont pas toujours réalisé quelles sont les conséquences, toutes les conséquences positives de ce sacrifice à la croix. Le salut, c'est comme un gros colis que Dieu nous donne, et beaucoup de chrétiens défont le colis, prennent deux ou trois choses qui apparaissent à la surface et referment le colis. Alors qu'il y a encore d'autres choses à prendre. D'ailleurs, il faut vider ce colis, amen. Ça en prend parfois une vie. Mais il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Alors pour certains, peut-être que ce message peut vous aider, lorsque vous rentrez à la maison, à ressortir le colis de l'armoire et le rouvrir. En vous disant, j'avais pas vu qu'il y avait encore des choses sur le papier. Alors, quelles sont les conséquences du péché? Beaucoup de souffrance. Hein? Quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas dit, bon, voilà, je te laisse dans ce monde, mais je te laisse avec une grosse boîte de cachets d'aspirine, parce que ça va pas être facile. Hein? Non, il l'a placé dans un monde merveilleux, parce qu'exemple du péché. Et nous l'avons dit l'autre soir, lorsqu'Adam a laissé le diable le séduire, il lui a de ce fait légalement remis l'autorité de ce monde. Adam était le prince de ce monde. Aujourd'hui, qui est appelé le prince de ce monde? Satan. Il a pris la place d'Adam. Le péché est alors entré dans ce monde avec son cortège de souffrances. Et des souffrances, il y en a plein la terre aujourd'hui. Souffrances dues au rejet. Souffrances dues au complexe. Souffrances dues au maltraitement relationnel. Souffrance due à la solitude, souffrance due aux échecs, souffrance due au manque divers que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais l'Écriture nous précise qu'à la croix, Jésus a porté nos souffrances. Allô? Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dans la souffrance, voilà une autre conséquence du péché dont Jésus s'est chargé. Ne le laissons pas juste se charger de nos péchés, laissons-le aussi se charger de nos souffrances. Les souffrances engendrent des douleurs. Christ s'est donc chargé aussi des souffrances et des douleurs. Et loin de s'arrêter là, il s'est aussi chargé de nos maladies. Vous savez, il y a quelques années, lorsque nous avons démarré ces séminaires, j'avais du mal à tenir debout plus de 10 minutes. J'étais obligé de m'asseoir. Parce que j'avais un tassement des vertèbres qui faisait que ma femme devait porter les valises lorsqu'on voyageait. Bon, ça m'arrangeait sous certains angles. Mais les gens disaient, celui-là, dis donc, il laisse tout porter à sa femme. Et dans un des premiers séminaires, j'avais donc prié le Seigneur. Je m'attendais à sa guérison, mais je ne voyais pas arriver cette guérison, mais je restais dans la foi que quelque chose un jour allait se manifester. Parce que Dieu agit de manière différente, parfois d'une manière immédiate et parfois dans le temps. Il nous demande de persévérer. Et un jour, dans un de ses séminaires, je n'ai pas réalisé, je devais aller chercher quelque chose et j'ai sauté de l'estrade. Et à l'instant où j'ai sauté, nous étions dans un supermarché avec mon épouse et j'ai éternué seulement et je me suis retrouvé allongé par terre. En éternuant. Donc vous imaginez dans quel état était mon dos. Et là, je me suis dit, aïe, 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 comment tu vas atterrir là, en quelques fractions de seconde. Et puis, j'ai très bien atterri et je me suis retrouvé guéri. Donc, Dieu va peut-être vous visiter au moment où vous ne vous y attendez pas, au moment où vous y attendez le moins. Continuez à croire. Amen. Alors, c'est vrai qu'il y a des onctions particulières. Parfois, nous prions pour les gens et en quelques fractions de secondes, ils sont guéris instantanément. Alors, lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils sont debout, lorsqu'on leur impose les mains, lorsqu'on leur fait l'onction d'huile, d'autres, ça sera dans la voiture, lorsqu'ils partent. L'effet de cette prière va produire son effet dans la voiture, quelques minutes, voire quelques heures après. D'autres, c'est dans la semaine qui suit le séminaire. Puis d'autres, ça va être dans les semaines qui suivent. Parce que nous ne devons pas limiter Dieu. Notre foi n'est pas basée sur la forme à travers laquelle Dieu nous touche. Notre foi est basée sur sa parole. Et sa parole nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bon, je suis d'accord avec vous. Il faut avoir un certain degré de folie pour croire ces choses-là. J'espère que vous êtes suffisamment atteint. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous êtes attrapé un bon virus de foi avant la fin de ce séminaire. Vous savez, avec mon épouse, on ne peut pas s'entourer de n'importe quelle personne. On a toute une équipe très précieuse, là, d'ailleurs. On n'a peut-être jamais eu une si bonne équipe que ce week-end. Hein? Ouais, là, je vais mettre ces gens à l'honneur. Ils sont tous top. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Alors, les souffrances... nos souffrances. Jésus guérissait les malades en confirmation, nous dit Matthieu, de ce passage de l'Écriture, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia! Le fait qu'il se soit chargé lui donnait donc le droit de nous guérir. Ésaïe 53:5, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non pas que nous allons être guéris, mais que nous sommes guéris. Donc, à l'instant où j'avais encore mon mal, pour Dieu, j'étais déjà guéri. Et je me devais soit de continuer à croire ce que Dieu déclarait, malgré ce que déclarait ma chair, soit d'aller dans la direction de la chair. Vous comprenez ce qu'est la foi? Maintenant, la foi, ce n'est pas faire les choses simplement parce que vous avez entendu Claude Payeur expliquer ce principe ce matin. C'est recevoir votre propre révélation de la chose. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez comprendre intellectuellement ce que je suis en train de dire sans libérer la foi qui est la foi de Dieu. Tant que vous n'avez pas votre propre parole. Tant que cette parole que je viens d'expliquer ce matin est ma parole que vous écoutez, que vous comprenez, ça, ce n'est pas la foi qui va produire la guérison ou qui va produire le miracle. Mais lorsque cette parole, à un moment donné, vous dites, c'est plus la parole de Claude Payen, c'est la parole qui me concerne personnellement. Elle a pénétré dans mon esprit, elle est devenue mienne. Claude Payen, il pense la même chose que moi, mais je ne suis pas un mouton qui écoute les gens prêcher, parler, et je dis amen à tout, et parce que je comprends, j'essaye d'avoir leur expérience. Est-ce que vous voyez la différence? Ça, c'est de la foi mentale. C'est la foi selon la chair, selon l'âme. Dieu nous demande d'avoir la foi en elle, qui vient d'une parole personnelle que Dieu nous adresse. Dans Romains, il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, dans le texte grec, le mot parole, c'est le mot rhéma. Vous savez, il y a le mot logo et le mot rhéma pour le mot parole. Le logo, c'est la parole à l'état cru. Il faut bien commencer par la parole à l'état cru pour qu'elle devienne la parole révélée. Mais le rhéma, c'est lorsque cette parole qui nous est donnée à l'état cru devient une révélation personnelle. Elle nous saute aux yeux. Vous savez, ce verset que vous avez lu 50 fois dans l'Écriture, et ce jour-là, vous le lisez, il vous saute aux yeux. Parce qu'il est devenu un rhéma. Il vous est devenu personnel. Hello? C'est pourquoi nous ne sommes pas supposés être conduits d'une manière littérale par les pasteurs, les prophètes, les prophéties. Même si nous sommes conduits d'une manière générale. Mais nous sommes supposés entendre de leur bouche la confirmation de Dieu à ce qu'il nous a déjà placé dans nos propres entrailles. Vous devez dire, mais là, il est en train de parler de choses qui sont déjà là. Je les comprends parce que Dieu m'a déjà enseigné par son Saint-Esprit. Et Jésus a dit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est pourquoi les brebis sont supposées reconnaître la voix du bon berger. Parce que Dieu a déjà placé dans leur esprit, dans leurs entrailles, son enseignement. Simplement, il y a des pasteurs, des enseignants qui vont formuler ce que j'ai déjà. ou qui vont chanter ce que je ressens. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la foi de Dieu. Dans Marc 11, lorsqu'il dit « Ayez foi en Dieu » dans la Bible second, le texte, c'est la foi de Dieu. Il y a des tas de foi dans ce monde. Lorsque vous allez poster une lettre, vous avez la foi qu'elle va arriver. C'est pas cette foi qui sauve. C'est pas la foi du facteur qui sauve. Il y a des fois, raplapla, il y a toutes sortes de foi. Il y a la foi dans nos pères, justement, qui est le contraire de la foi de Dieu. Est-ce que vous... La peur, c'est la foi. Et la peur court-circuite la foi, parce que justement, c'est l'opposé de la foi de Dieu. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, quoique Jésus soit là en personne, et lui a dit de venir devant de lui, la Bible nous dit qu'il a regardé au vent, et il eut peur. Et sa foi a été court-circuitée par une autre foi, la foi qu'il a placée dans ses peurs en voyant le vent. Est-ce que vous me suivez? Et pourtant, Jésus était là en personne. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, « Bon, il est bien gentil, c'est Claude Payan avec sa petite tresse, là, et ses petits chants. » Mais si Jésus était là en personne? Écoutez, Jésus, il nous a dit le contraire. Il nous a dit qu'il nous est avantageux qu'il soit parti. Il a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. » Donc, bibliquement, non pas d'après les paroles de Claude Payan, mais d'après les paroles de Jésus lui-même, nous avons ce matin un avantage de ce que Jésus n'est pas là en chair et en os au milieu de nous, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Tu peux le dire à ton voisin, tu as un avantage ce matin, pas besoin de stresser. Regardez, lorsque Jésus était dans son corps de chair, il ne pouvait se trouver qu'un seul endroit en même temps. Lorsqu'il faisait une réunion, il faisait sa réunion dans un seul endroit. Aujourd'hui, pendant que nous avons cette réunion, il y a des milliers de réunions de par le monde avec le même Saint-Esprit. Vous voyez l'avantage qu'a l'Église? Prêche, papa, prêche. Ah, moi, je l'encourage. Si Jésus s'est chargé, cela signifie qu'il a pris notre place. Et ça, c'est important à réaliser. C'est le premier point très important à réaliser ce matin. Jésus a pris notre place. Dis-le à ton voisin. Jésus a pris ta place. 1 Jean 2:2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Même ceux qui ne choisiront jamais un jour Jésus-Christ comme sauveur, il a été pourvu pour eux. Les divers versets que nous avons cités nous montrent que Jésus a pris de nous sur lui. Nous, lui, c'est un échange. C'est un changement de place. L'Éternel a fait retomber, nous l'avons dit, sur lui l'iniquité de nous tous. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez l'échange là? C'est pour nos péchés, brisés pour nos iniquités, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. S'il a pris à notre place, cela signifie que nous ne sommes plus supposés, nous, porter les choses dont il s'est chargé pour nous. Hello? Sinon, il n'a pas vraiment pris notre place. Sinon, on est là avec lui à continuer à essayer de porter nos problèmes. Pas besoin qu'on soit deux, hein. Pendant des années, on a essayé de les porter seuls. Vous avez vu si c'est lourd? Je crois que souvent, on est au milieu du plan de Dieu, là, à essayer d'aider Dieu. Vous avez déjà vu un petit enfant, là, lorsqu'il veut aider sa maman à ranger? Il met plus de pagaille qu'autre chose. Alors maman le laisse ranger pour lui faire plaisir, mais dès qu'il est sorti de la chambre, elle range tout ce qu'il a rangé, soi-disant. Et il en est de même avec nous. Souvent, on est là dans les pieds de Dieu, là. Seigneur, aide-moi à porter ce problème. Seigneur, il veut pas nous blesser. Mais il a envie de nous dire, ça fait des années qu'il essaye de le porter, t'as vu dans quel état tient? Alors laisse-moi un peu tranquille, le porter seul. Et je crois que souvent, nous empêchons Dieu d'agir, parce que nous essayons de l'aider, de trop l'aider. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur... Lui, oui. Donc nous sommes supposés, très bien là-bas, nous sommes supposés avoir la paix. Parce qu'à travers son sacrifice, il a effacé nos péchés, il a changé notre statut, pris le péché sur lui. Donc on ne peut plus être de ces chrétiens qui prient, Seigneur, je suis un misérable pécheur. Vous savez ce que le Saint-Esprit va vous répondre? Ben, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Non, je suis désolé, je ne peux pas t'exaucer. On a l'air malin là, pour avoir fait des excès de spiritualité. Oh Dieu, je suis un misérable pécheur. Et Dieu va te répondre, puisque tu le crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Et Dieu, pourquoi tu ne m'exauces pas? Ben parce que tu viens de m'empêcher de t'exaucer. Tu viens de dire que tu es un misérable petit pécheur. Et la Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il exauce les justes. Et donc ceux qui s'approchent avec assurance du trône de la grâce, revêtus de leur statut de juste. Donc parfois, il faut changer notre forme de prière. Parce que la Bible dit que ce n'est pas parce que nous ne prions pas souvent que nous ne sommes pas exaucés. C'est que nous prions mal. Si tu pries comme un misérable, tu nies par ton attitude ce qui a été accompli à la croix. On ne le fait pas exprès, je suis d'accord avec vous. Et vous comprenez, le Père vous regarde et vous dit, mais il a envie de dire, mais à quoi ça sert que j'ai donné Jésus-Christ? T'as pas compris? T'as pas compris ce qu'il est devenu à ta place, puisque tu confesses encore que tu es ça? Vous recevez quelque chose ce matin? Nous ne sommes plus des pécheurs de ce fait, nous sommes des justes. Il a fait de nous des justes. Il est dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Qui sont les justes? Je veux voir des justes qui lèvent la main, qui sont fiers d'être justes. Hello. C'est dur quand on a des années parfois d'enseignement ou dans une église traditionnelle où on a toujours pensé qu'on était misérables. Lorsque Dieu il a ramené le fils prodigue, il ne lui a pas dit, ben, toi tu t'assois au fond de la classe, là avec les mauvais élèves, près du chauffage, et tu ne nous ennuies plus. Non, il a dit, faites-le avancer, donnez-lui la meilleure robe, mettez un anneau à son doigt. Quand Dieu nous pardonne, il ne nous pardonne pas à moitié. On ne devient pas un ancien homosexuel, on ne devient pas un ancien dealer, on ne devient pas un ancien divorcé. Parfois les gens ont continué à leur faire porter ce qu'ils ont vécu dans le passé dans l'église. C'est l'ancien ceci, non? Si tu es lavé dans le sang de Jésus-Christ, tu es le nouveau.
Amen.
L'Écriture nous dit qu'il est notre justice. Elle ne dit pas que tu es juste à cause de tout ce que tu fais, mais que tu es juste parce qu'il est ta justice. Chaque fois que tu ne te trouves pas à la hauteur, tu dis « Waouh, waouh, j'ai manqué de justice cette semaine », tu as intérêt de voir Jésus dans la glace. Hein? C'est la seule manière de bien se voir soi. Alors cela signifie que je ne dois plus penser comme un injuste. Un injuste, qu'est-ce qu'il fait? Il culpabilise. Et c'est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Souvent les chrétiens veulent vivre sous la nouvelle alliance avec les principes de l'ancienne. Sous l'ancienne alliance, il faut bien comprendre, sous l'ancienne alliance, on était coupable. On apportait régulièrement des sacrifices qui ne déclaraient pas qu'on était lavé de nos péchés, qui rappelaient les péchés. Simplement, Dieu disait, je les mets sous le tapis. Vous savez, comme quand quelqu'un nettoie chez vous, il soulève la moquette et il met dessous. Dieu dit, pendant un temps, on va faire comme ça, mais un de ces jours, il faudra régler la chose. Donc, le message de l'ancienne alliance n'est pas un message, vous voulez savoir. C'est un message de pardon provisoire. Et c'est important de réaliser ça. Parce que des tas de gens vivent la nouvelle alliance avec les règles de l'ancienne. Et c'est plus possible. Mais sous la nouvelle alliance, ce que symbolisaient tous ces sacrifices, l'agneau Jésus a été immolé, et nos péchés sont pardonnés maintenant dans un autre sens, il y a des nuances dans le grec et dans l'hébreu à ce niveau-là d'ailleurs, au niveau du mot pardon, c'est qu'ils nous sont remis. Vous verrez que selon les traductions c'est le mot pardon, et selon les traductions c'est le mot rémission des péchés. Or le mot rémission des péchés est beaucoup plus fort que le mot pardon, parce qu'il sous-entend que nos péchés ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Qu'est-ce qu'on va faire? Aller les repêcher sans arrêt et les représenter à Dieu. Ah, Dieu, tu te rappelles, j'ai fait ça. Dieu dit, mais tu le fais exprès ou quoi? Non, mais c'est très important de réaliser. Le principe de l'ancienne alliance, c'est un principe de pardon provisoire et imparfait. Mais Dieu voulait dire à travers ses sacrifices, un jour, il faut à tout prix qu'on règle ça. Mais aujourd'hui, c'est réglé. C'est pourquoi l'accès au Saint des Saints nous a été donné à tous. n'y a plus de souverain sacrificateur aujourd'hui. Nous sommes devenus des sacrificateurs. On a tous le droit de prier pour les malades. On a tous les droits de se présenter dans le Saint des Saints et de lever les mains. Amen. Le pasteur ne devient pas le grand prêtre. Ça fait du bien, non? De savoir ou de se rappeler ces choses-là. Tant de chrétiens n'ont ni la paix ni la conscience d'être justes en quoi que ce soit. Ils confessent même régulièrement leur injustice. Alors comment peut-on... Eh bien, c'est le titre de ce message, par l'identification. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? C'est un mot qu'il faut connaître dans la vie chrétienne. L'identification. Donc, premier point, Jésus s'est identifié à moi. C'est très bien, on est content tous. Qui est content? Voilà, maintenant il faut il faut pas s'arrêter là. Point numéro 2, maintenant il faut que je m'identifie à lui. Sinon je vais rester au milieu de la route et je vais me faire écraser. Vous avez vu les gens qui restent au milieu de la route? C'est comme quand tu veux traverser pour passer de l'autre côté et puis tu restes au milieu là. Tu es en danger. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont fait un premier pas dans la compréhension de ce que Christ a accompli pour eux, ils pensent que dès lors, il n'y a plus rien à faire. Mais ils sont au milieu de la route. Et même, ils sont en danger. On veut me censurer dans cette, dans ce lieu-là. Donc, comprenons qu'il y a deux démarches qui permettent cet échange de fardeau entre Christ et nous. La première démarche a été accomplie par le Seigneur. Ça, c'est bien compris? Mais la deuxième est beaucoup moins comprise chez les enfants de Dieu. Donc Jésus a quitté sa gloire, il a quitté la place qu'il occupait, nous dit l'Écriture, auprès du Père. Ses attributs divins, il les a mis de côté, il s'est identifié à nous, il est venu comme un simple homme. C'est pourquoi, comme un homme, il a dû rechercher la face de Dieu pour être revêtu du Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé ses dons de fils de Dieu. Quand il était petit à l'école, il multipliait pas les billes en jouant avec ses collègues. Il a fallu que, comme un simple homme, il cherche la présence de Dieu pour être revêtu du Saint-Esprit. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Donc, Christ s'est identifié à nous. Philippiens 2, 7, 8. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, dont il a accompli ce que le Père lui a demandé de faire. Mourir pour nos péchés. Il s'est identifié pour payer à notre place. On continue avec les versets. C'est très important de comprendre cela ce matin. Hébreux 2, 17. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, dont il a été tenté comme nous en toutes choses. Souvent, certains imaginent Jésus, c'était Superman. Il est descendu, jamais tenté. Père, je monte sur la croix, c'est facile. Dans le jardin de Gethsémané, il a eu les angoisses qu'un homme peut avoir quand il sait qu'il va être torturé et crucifié, comme un simple homme. Tenté, dans toutes les choses dans lesquelles nous avons été tentés, dont il peut comprendre que c'est pas si facile d'être humain. Donc lorsque vous vous présentez devant le trône de la grâce, c'est une bonne chose à dire dans ses prières. Seigneur, tu sais que c'est pas toujours évident d'être humain. Il va te dire, oui, je sais. Donc il ne pouvait pas y avoir de rédemption sans édification de Jésus avec nous. Romains 8, 3, on continue avec les versets. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes un jour une sœur est venue me trouver, nous a dit, vous Claude et Julia Payan, ça fait des années que vous êtes dans le ministère, vous devez même plus savoir ce que c'est la tentation. Les gens ont certaines idées. Tentation de faire mal. Donc si vous êtes tenté, vous êtes normal. D'ailleurs, si vous n'êtes pas tenté, il y a un problème. On va prier pour que vous soyez tenté. Il faut que vous redeveniez normal. Et c'est que vous êtes au quatrième ciel, là, dont je parlais l'autre soir. On vous veut au troisième ciel, ok? Pas plus haut. Alors cette première démarche de Jésus doit être suivie donc d'une seconde, qui est moins évidente pour beaucoup de chrétiens. Nous devons maintenant nous identifier à lui. Je répète, il s'est identifié à nous, nous devons maintenant nous identifier à lui. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux, c'est en Christ que je le peux. C'est grâce à lui que je le peux. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui. Pas en Claude Payan. En lui. Pas dans le pape. En lui. Pas dans Paul. Même si nous bénéficions de ces merveilleux écrits en lui. D'ailleurs, Paul lui-même a dit qu'on ne pose aucun autre fondement que Jésus-Christ. Nous devons donc nous identifier, rappelez-moi cette parole, à identifier pour toutes les choses que nous ne voulons plus et toutes celles dont nous avons besoin. Je m'identifie à lui. Amen. Un frère nous demandait de prier pour qu'il arrête de fumer. Amen. Voilà, ben, est-ce que Jésus fume? Tu vois, Jésus, il parlait avec ses disciples et puis il sortait son paquet. Alors les frères, heureux ceux qui... Non, on a du mal, hein. Alors là, pendant un temps, tu vois Jésus, tu le vois, tu le visualises, et je pense que pendant des jours, tu vas pas le voir sortir un seul paquet de sa tunique, hein. De même, je m'identifie à lui pour mes besoins auxquels il est pourvu en lui. Je suis guéri par ses meurtrissures, je le crois, je le confesse. Moi, souvent, la nuit, je suis là, allongé, et puis, je me détends et je confesse ce que je suis. Qui est tout le contraire de ce que je sens souvent. Mais je confesse que j'ai un avenir, j'ai une espérance, et puis que demain va être une journée où je vais voir la gloire de Dieu. Parfois, ce jour-là, j'ai eu une sale journée, et le diable m'a soufflé aux oreilles toute la journée, mais demain, ça va être pire. Vous voyez, tous les jours, nous sommes confrontés à des choix. Est-ce que j'écoute la voix du diable, ou est-ce que j'écoute la voix de Dieu? Mais la voix de Dieu ne s'aligne pas toujours avec nos sens. Je le disais tout à l'heure, je ne peux pas comprendre qui est Dieu par ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours, je me lève et je ne sens pas Dieu. Vous sentez Dieu tous les jours, vous levez, Dieu. Non, des fois, vous sentez tout sauf Dieu. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Je ne peux pas comprendre la nouvelle créature que je suis devenue en Jésus-Christ par ce que je ressens. Souvent, je ne me sens pas un vaillant héros. Je me sens un vaillant zéro. Pas vous? Je me regarde dans la glace le matin et je dis, ben dis donc, c'est ça le vaillant héros. Il me dit, non pas de croire mes sens, mais de croire sa parole. Et sa parole me dit qui je suis. Elle me dit que je suis aimé de lui, dont je dois croire qu'il m'aime. Elle me dit que j'ai de la valeur, dont je dois croire que j'ai de la valeur. Elle me dit que je suis un vaillant héros, que j'ai l'autorité, dont même quand je suis confronté et tenté par la peur, je dois croire que c'est moi qui dois vaincre quand même. Je ne le sens pas, mais c'est ainsi qu'il va en être si je le crois. Ça s'appelle la foi. Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous ne pouvons nous identifier à Jésus que par la foi. D'accord? Si tu attends de t'identifier à Jésus par ce que tu sens, ben autant prier pour aller au ciel de suite. Hein? D'où l'importance de bien comprendre qui est Jésus pour moi. On doit développer une ferme assurance des réalités qui sont nôtres en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes ce qu'il a été pour nous. Nous avons ce qu'il a acquis pour nous et nous ne devons pas subir ce qu'il a porté pour nous. Même si le diable essaiera toujours de nous placer sous les jougs des malédictions. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Briser les malédictions dans notre vie ». Et le livre enseigne des choses qui ne correspondent pas toujours aux méthodes que les gens utilisent pour briser les malédictions. Mais elles vont surtout dans le sens de s'identifier à Jésus. Je voudrais vous dire que même si en théorie les malédictions dans votre famille et sur votre vie ont été détruites à la croix, dans le concret de la vie, si vous ne savez pas résister au diable, vous continuerez à les porter. C'est pourquoi nous connaissons beaucoup de personnes qui continuent à appeler les mêmes morts, les mêmes folies, parce qu'ils ont cru que ça se faisait naturellement. Non, il y a la théorie, il y a ce qui a été accompli dans le monde spirituel, et il y a ce que tu dois t'approprier maintenant dans le monde physique. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Elle nous dit « Résistez à Satan, et il fuira loin de vous ». Si les choses se mettaient en place naturellement dans notre vie, il ne serait pas question de résister à Satan, il ne serait pas question de combat de la foi. Nous devons apprendre à renverser les forteresses dans nos vies. Nous pensons, parlons et agissons. Nous sommes supposés penser, parler et agir comme possédant les choses qui ont été acquises pour nous. Amen. 1 Jean 5,15. Regardez. Si ce que je dis n'a pas de sens, ce verset n'a pas de sens. Si nous savons qu'il nous écoute, déjà nous devons avoir la foi de ce que Dieu nous écoute lorsque nous prions. Souvent les gens, vous savez ce qu'ils disent? Oh, il a prié pour moi, j'ai rien senti. Il s'est rien passé. Ben voilà. C'est normal, donc il s'est rien passé. Et d'ailleurs, si s'était passé quelque chose, c'est annulé. C'est annulé par tes paroles. Parce que tu viens de croire dans ce que tu sens ou ne sens pas. Oh, Dieu te dit de croire dans sa parole. Vous savez, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, Moïse, il devait avoir tout le plan, vous savez, tout le scénario. Je vais me présenter devant Pharaon, je lui dis, laisse aller mon peuple. Et Pharaon se jette à mes genoux, il dit, oui, je reconnais que l'Éternel est sur toi. Et je laisse aller le peuple. Et Pharaon, il le regarde, il lui dit, non. Et on va même augmenter les charges du peuple. Moïse, on se met à sa place, il retourne, il dit, Seigneur. Donc vous voyez, parfois vous priez, les choses, au lieu de s'améliorer, vous avez remarqué, elles empirent. Vous avez marché sur la queue du chat. Et le chat, il commence à réagir. Il faut juste réaliser que c'est qu'un chat, c'est pas un lion. D'accord? Donc vous le prenez par la queue et vous le passez par la fenêtre. Mais à cet instant, il veut nous faire croire que c'est un lion. Alors les gens s'affolent. On a prié, au lieu de s'arranger, ça s'empire. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Relax. Qu'est-ce que disait Jésus avant de faire un miracle? Ne crains point. Il avait besoin de cette ambiance. D'ailleurs, il y allait fort, parce que parfois, les gens venaient le trouver parce que c'était quelqu'un qui était mort, et là encore, il disait, ne crains point. Là, Seigneur, tu vas un peu loin, quand même. Je ne sais pas si tu as bien compris mon explication. La personne est morte, Seigneur. Morte, Seigneur! Alors, ne crains point quand on est malade. Je veux bien, mais quand on est mort... Et Jésus, ne crains point. Vous savez, la Bible ne nous dit pas, et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais pour nous encourager à aller de l'avant, elle ne nous dit pas que Dieu exauce une foi faible. Oui, Dieu exauce une foi faible lorsqu'on est nouveau converti, au même point qu'un bébé, on le porte, vous comprenez? Et en réalité, c'est qu'on est porté par la foi des autres quand on est nouveau converti. Vous avez remarqué souvent que lorsqu'on est nouveau converti, on prie, on est exaucé, c'est facile, on a l'impression que la foi c'est facile. Au bout de quelque temps, Dieu, comme les petits aiglons, il nous lâche du nid pour qu'on apprenne à voler. Et il nous demande de développer notre propre foi, de ne plus vivre au crochet de la foi de nos parents, de ne plus vivre au conjoint. Et là, il faut développer notre foi. C'est pourquoi la Bible dit de résister à Satan, non pas avec la foi, avec une foi ferme. Donc ce doit être possible de développer une foi ferme. Ah ben, je suis d'accord avec vous. Dans la barque, Jésus se trouve avec les disciples et l'eau commence à rentrer dans la barque, quoique Jésus soit là. Non, ce n'est pas parce que Jésus soit là que les choses se font tout seules. Premier enseignement. Et les disciples, ils réveillent Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Les amis, vous avez bien fait de me réveiller parce qu'on allait tous couler. Hein? C'est ça qu'il leur dit? Il s'énerve! Et vous ne pouvez pas régler la chose tout seul? Qu'est-ce qu'il voulait dire par tout seul? Non pas sans Dieu, mais vous avez déjà ma présence et ça vous suffit. Et je crois que Dieu, il en a marre qu'on le dérange sans arrêt dans la barque. Il veut qu'on utilise ce qu'il nous a donné. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous ou en? En toi? En?
En moi?
Ah, elle n'est pas au mur, elle est en toi. Souvent, on attend partout autour l'aide, alors qu'elle est là. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, au-delà de tout ce que vous demandez et priez. Alors, c'est bien de croire en Dieu. Peut-être qu'il faut croire un peu en nous aussi. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient en eux et leur problème, en Dieu, pardon, et leur problème, ce n'est pas qu'ils manquent de foi en Dieu, c'est qu'ils manquent de foi en eux. Mais pas en eux sans Dieu, mais en eux à cause de Dieu, en eux. Je me fais des nœuds. Sans Dieu, ça serait une abomination. Mais de croire en soi, à cause de lui en nous. Le Saint-Esprit a besoin de personne pour agir dans ce monde. Le diable a besoin de personne. Vous avez vu les gens qui font mal? Le diable, il fait mal à travers des personnes. Il a fait mal à travers Hitler. Il cherche des récipients, le Seigneur, à travers lequel il peut exprimer sa bonté sur cette terre. Qui veut être un récipient pour le Saint-Esprit? Seigneur, allez! Souvent on dit, remplis-moi, Seigneur, plus, plus, plus! Au bout d'un moment, le Saint-Esprit dit, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir! Ouf! Et là, ils en ont trop du Saint-Esprit, il faut qu'il aille sortir maintenant! On vient pas au réunion juste pour se remplir encore, encore! Un Jean 5,15, si nous savons qu'il nous écoute, donc, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Non pas nous voyons que nous possédons la chose, non pas nous sentons que nous possédons la chose, mais nous savons. La foi est quelque chose que tu sais. C'est pas quelque chose que tu te forces à avoir. Je sais d'avoir la foi. Non, à un moment donné, c'est facile d'avoir la foi. Est-ce que vous me suivez? Donc recherchez la foi de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne facile. Là, ça veut dire que vous êtes pris pour le miracle. Mais tant qu'elle est forcée, c'est pas encore la foi de Dieu. C'est pas encore la ferme assurance qui nous permet de résister à Satan avec force. Donc nous sommes appelés à le croire, mais aussi à le confesser. Parce que la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, il le verra arriver. Donc ça, c'est le principe du salut. Et le salut signifie autant ses oppressions et qu'avoir, on pourrait dire, une vie de qualité. Donc, pour avoir une vie de qualité, la qualité de ma vie correspondra toujours à la qualité de ma foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et le même verset d'Osée, je crois, il est repris dans Romains ou dans 1 Corinthiens, où Paul dit « Le juste vivra par sa foi ». Je ne peux pas toujours vivre de la foi des autres. Nous avons besoin de l'aide des autres et nous passerons tous par des périodes, et la sœur dans ce sens avait raison, nous passerons tous par des périodes où nous avons besoin d'être portés par les autres. On est d'accord? Mais on ne peut pas passer notre vie chrétienne à être porté par les autres. Vous voyez la différence? C'est la vallée dont nous parlions hier soir, de la mort. On passe tous par des vallées désagréables et nous ne pouvons pas enseigner que la vie chrétienne, c'est toujours « je reste le moins longtemps possible dans la vallée de l'ombre de la mort et dans la vallée de Baca ». D'ailleurs, nous avons des tas de clichés que nous avons hérités qui sont complètement faux. Nous voyons souvent les mages venir trouver Jésus dans les films lorsque Jésus vient de naître. Il rentre dans les tables, il y a le veau, il y a toute la famille. Or, la Bible nous dit qu'ils sont venus dans une maison. Vous n'avez pas vu ça dans l'Écriture? Ils sont rentrés dans une maison. Vous voyez les clichés qu'on a, les clichés religieux qu'on a, que même les films nous transmettent, qui ne correspondent pas obligatoirement à l'Écriture. Et pourquoi je note cette chose-là? Parce que ça nous montre que dans les tables, il n'est pas resté longtemps. Hello! Ça veut dire qu'on partit rapidement. Et quand les mages sont venus, je crois que c'est Luc qui dit, ils sont entrés dans la maison. Et d'ailleurs, quand ils sont repartis, est-ce qu'ils sont repartis avec leur trésor? Ils ont laissé leur trésor. Donc il a commencé millionnaire! Tout petit déjà. Il y a des gens qui ne croient pas à la prospérité. Je ne crois pas à l'abus dans la prospérité. Mais je crois que Dieu veut nous faire prospérer, ne serait-ce que pour aider les autres. Vous voyez, il faut détruire les schémas religieux qui ne sont pas toujours bibliques. Peut-être tu es dans les tables en ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça commence à sentir mauvais, hein? Ça se comprend. Il y a des odeurs dans les tables. Nous sommes appelés à croire certaines vérités. Je suis juste. Je suis pardonné. Je suis aimé. Je suis guéri. Mettons notre foi en action dans ce que Christ a fait pour nous. Éphésiens 2,14 dit, il est notre paix. Dans la paix, je ne peux pas la trouver ailleurs qu'en lui. Ça signifie que Jésus est notre paix, même au sein de la tempête. La victoire, c'est un état d'esprit. La victoire, selon la parole de Dieu, ce n'est pas un état que je reconnais parce que je suis victorieux dans tous les domaines de ma vie. C'est un état que j'accepte et que je proclame. Est-ce que vous comprenez? La victoire est un état d'esprit. C'est comme la joie dont nous parlions hier. Soyez toujours joyeux. Comment vous voulez être toujours joyeux? C'est obligé que la joie soit un état d'esprit. Et donc, lorsque toutes les raisons d'être dans la tristesse sont réunies, tu choisis d'avoir quand même la joie. Et ça, c'est notre privilège d'enfant de Dieu, de choisir notre destinée. Wouh! L'identification est un programme de guérison en soi, Beaucoup de gens ne sont jamais guéris de toutes leurs blessures parce qu'ils ne veulent pas être guéris à la manière de Dieu, mais à celle des hommes. Assurez-vous que vous acceptez la manière de Dieu. La délivrance est de relation d'aide, et je crois la délivrance est à la relation d'aide. Mais s'il ne nous amène pas, à un moment donné, à reconnaître en Jésus-Christ que se trouvent toutes nos sources, nous serons toujours dépendants des gens qui ont pratiqué la délivrance ou la relation d'aide sur nous. Ils remplaceront Jésus-Christ. Et ce qui était un sujet de bénédiction pendant quelque temps va devenir une occasion de chute parce que je deviens coupable d'idolâtrie. J'ai remplacé Jésus par les gens. J'ai remplacé Jésus par le pasteur. J'ai remplacé Jésus par mon conjoint. Même si c'était dans le plan de Dieu qui m'aide au départ et qui se donne pour moi. Vous me suivez? Donc, tout programme de délivrance et de relation d'aide doit amener les gens à devenir autonomes à un moment même. La vie de Christ. Ils peuvent dire, ce Saint-Esprit qui est en moi va me permettre de vaincre. Jésus dans la barque, il a engueulé ses disciples. Pourquoi vous avez peu de foi? Et eux, ils étaient tout contents, ils s'attendaient de dire, ben Jésus, on t'a prévenu à temps, tu pourrais nous féliciter. Mais non, les amis, ça fait des semaines que je suis avec vous, vous en êtes encore là? Alors, je ne pense pas qu'il faut culpabiliser en lisant ce genre de verset. Souvent, le diable veut nous amener à culpabiliser. « Oh, moi, je ne suis pas à la hauteur, je suis comme les disciples. » Ce n'est pas ça l'idée, on n'avance pas avec ça. C'est d'être stimulé pour dire, si Dieu a dit aux disciples qu'ils pouvaient avoir la foi, c'est qu'on peut développer une foi ferme. Je ne vais plus accepter faible dans la foi. Je ne vais plus accepter d'être quelqu'un qui doit s'appuyer toujours sur les autres. Je vais décider que les autres s'appuient sur moi. Même s'il faut passer par une période où on a besoin des autres. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez bien? C'est sûr? Pensez votre voisin, demandez-lui, tu suis bien? J'ai dit, pensez gentil, hein? Il a dit, bah! Certains pensent, si le pasteur me visite, écoutez parler des heures au téléphone, je serai guéri. Si mon mari est gentil avec moi, je serai guéri. Si je fais le tour de tout mon passé, je serai guéri. Alors Dieu peut utiliser partiellement chacune de ces choses, on est bien d'accord. Mais c'est pas dans ces choses que tu as ta guérison, que tu as ta délivrance, c'est en lui. Et toutes ces choses ont pour but de t'amener à lui.